Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Le chapitre 1 de Romains est notre texte aujourd'hui, et je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec nous pendant que nous examinons cette partie, la plus essentielle de l'épître de Paul aux Romains, versets 19-23. Romains 1, 19-23. Nous avons déjà discuté du verset 18, qui parle de la colère de Dieu révélée. Puis les raisons de la colère de Dieu sont données dans les versets 19-23. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors que Paul entame son message sur l'évangile du Christ, il le commence en établissant le fait que Dieu est un Dieu de colère. Après nous avoir présenté lui-même son thème dans les 17 premiers versets, il commence à dévoiler l'évangile de Dieu, et débute par la déclaration du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel. L'évangile commence donc par une déclaration d'ouverture, selon laquelle Dieu est extrêmement en colère contre les hommes. C'est là que l'évangile doit commencer. Les hommes doivent être confrontés à la réalité selon laquelle ils sont inévitablement jugés par un Dieu saint, qui doit réagir contre leurs péchés. Malheureusement, au fil des années, les chrétiens ont mis la pédale douce en ce qui concerne le thème du jugement. L'enfer a été discrètement omis de notre prédication. La colère a souvent été dépersonnalisée comme si Dieu n'était pas impliqué, seulement le travail d'une machine déiste. Mais Dieu est impliqué. Il est impliqué dans sa colère, autant qu'il l'est dans sa grâce, ou miséricorde, ou amour, ou toute autre extension, expression de sa nature. Les Écritures ont peint une image absolument effrayante et horrible de la colère de Dieu, et c'est une image que les hommes doivent avoir fermement ancrée dans leur esprit. Par exemple, dans les psaumes, nous lisons des choses comme ceci. « Le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Ajoutez-leur châtiment sur châtiment, qu'ils ne soient pas acquittés de votre part. Renvoie sept fois dans le sein de nos voisins les railleries avec lesquelles ils t'ont provoqué, ô Seigneur, qu'il n'y ait personne pour lui témoigner de la bonté, ni aucune pitié pour ses enfants orphelins. Heureux celui qui prend vos petits et les jette contre le rocher. Est-ce que je ne les hais pas, ceux qui te haïssent, Seigneur? Est-ce que je ne déteste pas ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais avec une haine parfaite. Je les compte parmi mes ennemis. Maintenant, ce sont des déclarations étonnantes qui reflètent la colère de Dieu en des termes très dramatiques. Certains hommes n'ont pas pu accepter ces déclarations. Il y a quelques années, en 1962, dans le London Times, il y avait un article, et l'article disait « Plus tôt cette année, 14 groupes d'études de l'église de Woodford ont examiné les psaumes de l'Ancien Testament et ont conclu que 84 des psaumes n'étaient pas appropriés pour être chantés par les chrétiens. En d'autres termes, ces personnes étaient tellement incapables de faire face à la colère de Dieu, révélée dans 84 psaumes différents, qu'ils les ont simplement exclus des écritures chrétiennes. J.C. Wansey, qui, en Grande-Bretagne, a compilé une collection de passages du Nouveau Testament qui ont été utilisés pour le chant de la congrégation sous le titre de « Un psautier du Nouveau Testament », a dit ceci. Certaines parties des psaumes sont pleines de jalousies tribales, de menaces sanguinaires et de malédictions, de pleurnicheries et de gémissements qui sont choquants et qui font perdre du temps à Dieu et à l'homme. Les psaumes du Nouveau Testament, cependant, sont bien chrétiens de part en part. Donc, ils les rejettent tous. Mais si vous voulez faire cela avec les psaumes, vous allez devoir partir de là, parce que Jérémie a compris la colère de Dieu, et dans sa prophétie il dit « Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi. » Ainsi a dit Jérémie. Dieu a répondu à l'appel de Jérémie par ces mots. « Voici, j'apporte un tel mal sur ce lieu, que les oreilles de tous ceux qui l'entendront frémiront, parce qu'ils ont rempli ce lieu du sang d'innocents, et ont construit les hauts lieux de Baal, pour brûler leurs fils au feu, comme des holocaustes à Baal. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet, ou la vallée de Ben-Hinnom, mais la vallée de l'abattage. Je donnerai leurs cadavres pour la nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et je ferai de cette ville une horreur, une chose à laquelle il faut siffler. Quiconque passera à côté sera horrifié et sifflera à cause de tous ces désastres. Et je leur ferai manger la chair de leurs fils et filles. » Puis, il y a le prophète Nahum. « Le Seigneur est un Dieu jaloux et vengeur. Le Seigneur est vengeur et courroucé. Le Seigneur se venge de ses adversaires et garde à la colère de ses ennemis. Le Seigneur est lent à la colère et d'une grande puissance. Et le Seigneur ne clarifiera en aucun cas le coupable. Qui peut résister à son indignation? Qui peut supporter la chaleur de sa colère? Sa colère est répandue comme le feu, et les rochers sont brisés par lui. Malheur à la ville sanglante. » De même Ésaïe. « Voici, le jour du Seigneur vient, cruel de colère féroce, pour faire de la terre une désolation, et pour en détruire ses pécheurs. Leurs enfants seront mis en pièces sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes ravies. » C'est un langage effrayant. Vous pouvez lire dans le livre du Deutéronome comment Moïse a parlé de choses similaires. Dès leur entrée dans la terre promise, le peuple reçut l'ordre d'organiser une cérémonie solennelle de bénédiction et de malédiction dans la vallée qui séparait le mont Ebal du mont Gerizim. 12 malédictions solennelles devaient être lues par les Lévites, à chacune desquelles tout le peuple devait dire « Amen ». Ils devaient invoquer la malédiction de Dieu sur ceux parmi eux qui n'obéissaient pas aux commandements de Dieu. Puis il y avait à suivre plus de 50 versets dans lesquels tous les jugements étaient détaillés sur ceux qui violaient les commandements de Dieu. 50 versets. Ils ont peur. Ce sont des versets de jugement. Maintenant, nous réalisons que ce sont les déclarations de la parole de Dieu, faisant autorité, et elles relatent la vérité absolue de Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère. Maintenant, certaines personnes supposent que c'est juste le Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu de colère. Mais ce n'est pas du tout vrai. Écoutez Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. « Vous, couvée de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Il nettoiera son aire d'abattage, la balle qui brûlera d'un feu inextinguible. Écoutez l'apôtre Jean. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reposait sur lui. » Le livre des Actes dit, comme il a soutenu, se référant à Paul, à propos de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement futur, et Félix était alarmé. Paul, dans ses lettres, parle de la colère de Dieu. Il dit, « Vous accumulez la colère pour vous-même, le jour de la colère, lorsque le juste jugement de Dieu sera révélé, car il rendra à chacun selon ses œuvres. Pour ceux qui sont factieux et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à la méchanceté, il y aura colère et fureur. Il y aura tribulation et détresse pour chaque être humain qui fait le mal. Ce jour-là, où Dieu juge les secrets des hommes par le Christ Jésus, il dit, « Que personne ne vous séduise par des paroles creuses. » Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Le livre des Hébreux continue. Si nous péchons délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus un sacrifice pour les péchés, mais une perspective effrayante de jugement et une fureur de feu qui consumera les adversaires. Hébreux poursuit en disant, s'ils ne se sont pas échappés lorsqu'ils ont refusé celui qui les a avertis sur terre, nous échapperons encore moins si nous rejetons celui qui avertit du ciel. Vous pouvez sauter les déclarations pour le moment dans 1 et 2 Pierre et Jude. Allez directement à l'Apocalypse pour y trouver d'autres déclarations sur la colère et le jugement. Il dit que le vin de la colère de Dieu sera versé sans mélange dans la coupe de sa colère, que les hommes seront tourmentés par le feu et le soufre, la fumée de leur tourment, montant pour toujours et sans repos, ni jour ni nuit. De sa bouche, dit-il, sort une épée tranchante, avec laquelle il frappera les nations, et les gouvernera avec une verge de fer, et foulera le pressoir de la fureur de sa colère. Même le Seigneur Jésus-Christ, parlant sans aucune trace de dureté, et avec une vie et un cœur remplis de compassion, d'amour, d'inquiétude et de miséricorde, parlait fréquemment de jugement, souvent de perdition, de destruction, de vengeance et d'enfer. Que disons-nous de tout cela? Ce Dieu est un Dieu de colère. Aujourd'hui, beaucoup nient cela. Fondamentalement, le déni se présente sous deux formes principales. Le premier, le déni qui vient du sommeil de l'âme. Des personnes enseignent que lorsque vous mourrez, vous vous endormez simplement. Si vous devez être condamné, vous ne souffrez jamais rien. Puis il y a les universalistes qui disent maintenant qu'en fin de compte, Dieu sauvera tout le monde. Mais les Écritures n'enseignent aucune de ces choses. Elles enseignent que les hommes doivent être avertis de la colère à venir, et cela suppose qu'elle est réelle. Permettez-moi de vous mettre en garde dans quatre domaines. Premièrement, méfiez-vous du puissant attrait naturel de l'universalisme et du sommeil de l'âme. Ils échappent à la souffrance éternelle, qui est un problème pour nous, mais ils le font en pervertissant les Écritures. Alors méfiez-vous de cela, car vous pouvez facilement être attiré par cet enseignement, parce que vous souhaitez du bien à tout le monde. Les gens vous coinceront et diront « Comment un Dieu bon peut-il permettre aux gens d'aller en enfer ?» Deuxièmement, méfiez-vous de l'influence omniprésente du libéralisme, qui considère toujours Jésus comme trop aimant pour condamner qui que ce soit. Troisièmement, méfiez-vous du fait que de tels enseignements viennent des sectes. La forme traditionnelle du christianisme adventiste du septième jour est sectaire. Elle commence à changer aujourd'hui pour le mieux. Mais la vieille ligne traditionnelle est sectaire, tout comme pour les témoins de Jéhovah et les Christadelphes, qui veulent tous enseigner ces doctrines qui contournent la punition. Permettez-moi d'ajouter une quatrième chose. Méfiez-vous de la perte de zèle pour gagner des âmes. Car si vous êtes déterminé à croire que personne ne finira jamais en enfer, alors vous n'allez jamais dire la vérité à qui que ce soit. Pourquoi s'embêter? Une vision superficielle du péché et de la sainteté de Dieu, a déclaré R. A. Torre, de la gloire de Jésus-Christ et de ses prétentions sur nous, se trouve au fond de faibles théories du destin de l'impénitent. Quand nous voyons le péché dans toute son horreur et son énormité, la sainteté de Dieu dans toute sa perfection et la gloire de Jésus-Christ dans toute son infinité, rien d'autre qu'une doctrine selon laquelle ceux qui persistent dans le choix du péché, qui aiment les ténèbres plutôt que la lumière, et ceux qui persistent dans le rejet du Fils de Dieu, endureront une angoisse éternelle qui satisfera les exigences de nos intuitions morales. Plus les hommes marchent étroitement avec Dieu, et plus ils deviennent dévoués à son service, plus ils sont susceptibles de croire à cette doctrine. Maintenant, cela nous amène à la question des versets 19-23. Si Dieu veut juger, et s'il va répandre sa vengeance, est-ce juste? Est-ce bon? Est-ce droit? La réponse est dans ces versets. Quatre raisons pour la colère de Dieu. Et ce sont aussi quatre phases dans le déclin et la chute de l'homme. Ces quatre phases deviennent les quatre bonnes raisons pour lesquelles Dieu est juste en condamnant les hommes à l'enfer. Ce sont la révélation, le rejet, la rationalisation et la religion. Tout d'abord, la révélation. Nous en avons parlé dans notre dernière étude. Les versets 19-20 en sont la clé. Ils disent que la raison pour laquelle Dieu déversera sa colère, verset 18, est « Car ce qu'on peut connaître de Dieu » et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. En d'autres termes, la création a donné à l'homme suffisamment de lumière pour qu'il perçoive la révélation de Dieu. L'implication évidente est que l'homme a rejeté la vérité, et il descend de plus en plus bas. S'il avait accepté la vérité de Dieu, visible dans la création, il se serait déplacé vers le haut. En d'autres termes, s'il avait vécu à la hauteur de la lumière que Dieu lui a donnée, Dieu lui aurait donné plus de lumière. Cela arrive plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Lydie, Corneille, l'eunuque de Candice, reine des Éthiopiens, tous vivant à la hauteur de la lumière existante que Dieu leur a donnée, ont eu l'occasion de recevoir plus de lumière, et quand ils l'ont fait, ils ont immédiatement cru. Le message parvient à un cœur ouvert, à celui qui vit à la hauteur de sa lumière. Ainsi le texte nous dit que Dieu s'est révélé à l'homme dans son monde. L'homme peut voir sa puissance, son soutien et sa divinité, de sorte que, s'il est à la hauteur de cette reconnaissance et de cette révélation, Dieu lui donnera plus de lumière. S'il voit l'omnipotence qui ne faiblit jamais et les attributs divins de Dieu comme manifestés dans la création, Dieu lui donnera plus de lumière. En fait, il a tellement d'informations dans la création que la fin du verset 20 dit qu'il est sans excuse. Voilà la clé. La colère de Dieu est-elle juste? Oui. Est-ce équitable? Oui. Parce que l'homme est inexcusable. Si un homme va en enfer, il y va parce qu'il a ouvertement, personnellement, choisi de rejeter la révélation de Dieu. Vous dites, mais que se passerait-il s'il n'avait jamais entendu l'Évangile? S'il vivait à la hauteur de la lumière reçue, Dieu lui révélerait tout le message de la rédemption. C'est exactement cela. Cela nous amène à la deuxième des quatre raisons pour lesquelles Dieu est juste, et c'est le rejet. Verset 21. Encore une fois. Parce que quand ils ont connu Dieu, et l'implication est que tous les hommes ont naturellement connu Dieu. Vous vous souvenez de Jean 1:9. Le Christ est la lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. En d'autres termes, chaque être humain possède la lumière du Christ en lui, et la révélation de la création autour de lui pour le conduire à Dieu. S'il n'y va pas, il est inexcusable, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'Apocalypse dit simplement que Dieu s'est révélé aux hommes. Le rejet dit que les hommes se sont détournés de cette révélation. Quand l'homme trouve Dieu dans la création, il rejette Dieu. Lucifer l'a fait. Adam l'a fait. Adam a même marché et parlé avec Dieu et l'a rejeté. Le docteur Barnhouse a ce paragraphe très très puissant. Dieu donnera-t-il à l'homme un cerveau pour voir ces choses? Et l'homme refusera-t-il alors d'exercer sa volonté envers ce Dieu? La réponse triste est que ces deux choses sont vraies. Dieu donnera à un homme des cerveaux pour fondre le fer et fabriquer une tête de marteau et des clous. Dieu fera pousser un arbre et donnera à l'homme la force de le couper et le cerveau pour façonner un manche de marteau à partir de son bois. Quand l'homme aura le marteau et les clous, Dieu étendra sa main et laissera les hommes enfoncer ses clous en les plaçant sur une croix dans la démonstration suprême que les hommes sont sans excuse. Ce qu'il dit, c'est que les choses mêmes que Dieu a données à l'homme pour les conduire à lui étaient les choses mêmes qu'il a utilisées pour crucifier Christ. Les hommes n'agissent pas en accord avec la vérité. Ils combattent et s'opposent méchamment à la vérité. Alors ils connaissent Dieu, dit-il, verset 21. Ils connaissaient Dieu, et pourtant ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils se sont détournés de lui. Le péché de rejet est cristallisé au verset 21. Revenez-y un instant. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est le crime de tous les crimes. La pire action jamais commise dans l'univers est de ne pas donner gloire à Dieu. Dieu doit être glorifié au-dessus de tout. Je veux m'arrêter à ce stade et je veux partager avec vous certains principes qui, à mon avis, sont tout à fait fondamentaux. Vous m'avez entendu partager ces derniers, déjà certains d'entre vous, mais ils doivent être partagés dans le contexte de Romains 1. Cela fait cette formidable mise en accusation du rejet de l'homme quand il dit « Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu ». Voilà le cœur et l'âme de la déchéance de l'homme. Il refuse de glorifier Dieu. Maintenant, que signifie glorifier Dieu? Cela signifie l'exalter, l'honorer, ou le traiter comme majestueux. Cela signifie reconnaître ses attributs, car les attributs de Dieu sont sa gloire. La gloire de Dieu est la consommation de tout son être. La gloire de Dieu est la consommation de tous ses attributs. La gloire de Dieu est ce que Dieu est révélé. Quand l'homme ne reconnaîtra pas cela, et que l'homme ne donnera pas la gloire à qui elle est due, alors c'est l'effronterie ultime envers Dieu. Dieu doit être glorifié. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé, pour glorifier Dieu. Le vieux catéchisme disait « Quelle est la principale fin de l'homme ?» La réponse était « Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. » C'est exactement cela. Dieu doit être glorifié. La gloire est simplement ses attributs. Par exemple, dans Romains 6:4, il est dit « Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. » Quelle partie de sa gloire? La puissance fait partie de sa gloire. Dans Exode 33, Moïse dit, montre-moi ta gloire. » Il dit, « Je ferai passer ma bonté et ma miséricorde devant vous. » Ainsi la gloire est sa puissance, sa gloire est sa miséricorde, et la gloire c'est sa bonté et sa grâce. Dans 1 Jean, il parle du Christ rempli de la gloire de Dieu, plein de grâce et de vérité. La véracité fait partie de sa gloire. Tous les attributs de Dieu constituent sa gloire, et les hommes doivent le reconnaître. C'est précisément ce qu'ils ne font pas, car tous ont péché et sont privés de quoi ? La gloire de Dieu. Ils ne verront pas sa gloire. Ils ne manifesteront pas sa gloire dans leur propre vie. Ils ne lui attribueront même pas la gloire due à son nom. Prenez le temps de lire 1 Chronique 16. À plusieurs reprises, à partir du verset 24, il nous dit de rendre gloire à Dieu. Fondamentalement, le monde créé fait cela. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Ils ne se disputent pas. Il n'y a jamais eu de révolte des étoiles. Ésaïe a dit au nom de Dieu, « La bête des champs me rendra honneur. Les animaux font simplement ce pour quoi Dieu les a créés. Ils manifestent son œuvre puissante. Les fleurs fleurissent, et les papillons papillonnent. Toute la création fait ce pour quoi elle a été faite, et elle ne discute pas. Elle donne simplement la gloire à Dieu. Mais au milieu de tout cela, l'homme se rebelle et refuse de glorifier Dieu, refuse de reconnaître Dieu. Franchement, si vous pouviez vous tenir au milieu de cet univers créé et regarder autour de vous à notre époque, et dire que vous ne croyez pas en Dieu, et que vous n'affirmerez pas la gloire, la majesté, l'honneur et la puissance de Dieu, vous êtes les plus grands imbéciles qui n'aient jamais vécu. Les preuves sont si nombreuses. Tout l'engagement de l'homme envers la vie peut être résumé en une seule déclaration. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Maintenant, Dieu a toujours souhaité que l'homme voie sa gloire. Je veux vous emmener dans un rapide tour à travers ce thème. Alors regardez en arrière dans Genèse chapitre 3. Maintenant Dieu a créé Adam et Ève, et les a placés dans ce merveilleux jardin. Dieu y a aussi placé sa présence, et il dit que sa présence était dans le jardin. L'ancien mot pour présence est Shekinah. Ce n'est pas un mot biblique, mais c'est le mot qui a été utilisé pour désigner la présence. Nous appelons la présence de Dieu la gloire de la Shekinah. Dieu s'est en fait manifesté sous une sorte de lumière, une certaine forme de lumière. Adam et Ève ont même marché et parlé avec Dieu dans la fraîcheur du jour. Ils ont reconnu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont communié avec Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont accepté sa gloire. Puis ils ont péché dans Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Voilà la Shekinah, la présence encore une fois. Ils entendirent Dieu parler alors qu'ils se déplaçaient dans le jardin. Adam et sa femme, ici vous avez un changement monumental, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Pourquoi ? Ils n'étaient plus intéressés par la communication avec sa gloire. C'était une chose du passé. Ensuite, allez à la fin du chapitre, verset 23, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. » pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam s'est rebellé, et il a été expulsé. Adam a vu la gloire de Dieu, et lui a tourné le dos. Il est une illustration classique du chapitre 1 des Romains. Quand ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu. Dieu avait dit, « Obéissez-moi, et ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que je vous demande. Glorifiez-moi par votre obéissance à ma loi. » Adam a défié Dieu, conduit par sa femme, et la tentation de Satan. Vous serez égal à Dieu. Obtenez de la gloire pour vous-même. Soyez comme Dieu. Ils ont cherché leur propre gloire, et ils ont été expulsés. En d'autres termes, c'est exactement ce que dit Romains 1. Ils connaissaient Dieu, mais ne le glorifiaient pas comme Dieu. Diriez-vous qu'Adam a une excuse s'il devait être condamné ? Pas du tout. Il a été expulsé du jardin parce qu'il avait fait son choix. Il aurait pu obéir. Il avait la connaissance. Il savait ce que c'était que de percevoir et de connaître Dieu, mais il lui tourna le dos. Dieu a mis une épée et a dit « C'est terminé ». Maintenant, Dieu pouvait, à ce moment-là, avoir simplement effacé la race humaine pour repartir à zéro. Mais Dieu désirait regagner l'humanité et laisser l'homme voir sa gloire. Dieu voulait chercher l'homme pécheur déchu et le ramener. Ainsi, tout au long de l'Écriture, Dieu s'efforce de révéler sa gloire. En fait, il arrive au point dans le 12e chapitre de la Genèse où il forme une nation spéciale, et cette nation est conçue pour un véhicule par lequel Dieu peut révéler sa gloire. Dieu leur donne un grand chef, du nom de Moïse. Allez au 33e chapitre d'Exode. Dieu avait dit à Moïse, « Je veux que tu diriges mon peuple. Je veux que tu me représentes devant eux. » Dieu vint vers Moïse pour le mettre à part pour l'œuvre. Exode 33:11 dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu est venu et a communié avec Moïse. » Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. C'est un gros travail, Seigneur. Tu plaisantes. Quelques millions de personnes. Tu veux que je les guide? Qui va m'aider? Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. En d'autres termes, je sais que tu seras bon avec moi, et je sais que tu me connais. Je sais que tu es ici avec moi, mais je ne sais pas si je peux le faire seul. » Alors il dit au verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, voici Moïse qui parle à Dieu. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. En d'autres termes, fais quelque chose de tangible, de physique. Montre-moi quelque chose. Montre-moi. » Verset 14. Dieu dit, « Très bien. Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la même présence que nous avons vue dans Genèse 3. La voici de retour. C'est la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Dieu dit, « Maintenant, je vais vous montrer ma gloire. » Dieu désirait que les gens voient sa gloire et répondent correctement. « Je vais vous montrer ma gloire. Ma présence vous accompagnera. » Moïse était encore sceptique. Alors au verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. Je ne peux pas l'accepter par la foi. Seigneur, révèle-toi. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » En d'autres termes, Dieu dit, « Je vais te montrer mon nom. C'est la somme de tous mes attributs. Je vais te montrer ma bonté. Je vais te montrer ma grâce. Je vais te montrer ma miséricorde. Je vais révéler ma gloire. » Mais il a dit, « Tu ne pourras pas tout voir, verset 20, et vivre, car si tu vois tout cela, tu mourras. » Alors le Seigneur dit, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Verset 22. C'est un anthropomorphisme. Dieu voile sa vue. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue, ou cela te brûlerait. Alors Dieu dit, je ne peux pas te montrer ma face, mais je vais te laisser voir un peu les reflets. Ainsi, il met Moïse dans le creux du rocher. Moïse est sur la montagne, Dieu passe. Et lorsque Moïse a vu la gloire de Dieu, elle s'est reflétée sur son visage. Et Dieu a renvoyé Moïse en bas de la montagne. Après cette incroyable vision que Moïse avait vue, son visage fut littéralement transfiguré. La gloire de Dieu était partout. Au verset 5, il est dit, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Vous voyez, il récite simplement tous ses attributs, et ils ont tous été révélés d'une manière ou d'une autre dans une lumière flamboyante. Maintenant, je ne comprends pas cela. Je sais tout simplement que c'est ce qui est dit. Maintenant, laissez-moi aller et montrer aux gens. Alors il descend de la montagne. Regardez 34:29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de la loi dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il descend, il parle aux gens, et son visage est illuminé comme une ampoule. Il a la gloire de Dieu de partout. Il est venu pour révéler la gloire de Dieu. Il est venu pour montrer au peuple la gloire de Dieu. L'ont-ils accepté? Non. Ils n'ont jamais glorifié Dieu. Ils se sont agrippés. Ils se sont plaints partout jusqu'à ce que toute cette génération meure dans le désert. Dieu disait, « Voyez ma gloire !» Il l'a même mise sur le visage de Moïse. Au fait, Paul dit dans Corinthiens que la gloire disparut petit à petit du visage de Moïse. Alors, remontera-t-il sur la montagne en courant pour enfoncer à nouveau son visage dans le rocher? obtenant plus de gloire avant de descendre. Finalement, il a voilé son visage pour que le peuple ne voie pas la gloire disparaître. Ce n'était pas sa gloire, c'était la gloire de Dieu. C'était permanent pour Dieu, mais temporaire pour lui. Dieu disait à son peuple, « Voyez ma gloire, voyez ma gloire !» Mais au lieu de cela, ils se plaignirent et moururent dans le désert. Je suppose que Dieu aurait pu les radier tout de suite, mais il ne l'a pas fait. Il leur a donné des plans pour construire un tabernacle. Regardez le chapitre 40, quand ils ont terminé le tabernacle. Ils devaient errer pendant 40 ans, et pendant tout ce temps, Dieu voulait qu'ils voient sa gloire. Ainsi, lorsque le tabernacle fut achevé, le verset 34 dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Maintenant, toutes les tribus étaient installées autour du tabernacle. Ils avaient tous leur campement, les 12 tribus autour du tabernacle, et ils faisaient tous face au tabernacle. C'était un lieu de culte. Quand ils ont déménagé pendant ces 40 ans, le tabernacle a été ramassé et déplacé, et la gloire est partie aussi. La gloire de Dieu descendit et habita entre les ailes des chérubins, sur l'arche de l'Alliance, dans le Saint des Saints. Et tout le camp se concentra sur cette gloire. Au fait, à travers toutes ces errances, la gloire de Dieu les a conduits quand ils devaient se déplacer pendant la journée, guidés dans un nuage, et les a conduits quand ils devaient se déplacer la nuit, par un pilier de quoi ? Feu ! C'était la gloire de Dieu. Dieu se mettait en plein milieu du champ, en plein milieu de leur vie, au milieu de leur activité en disant « Verrez-vous ma gloire ? Me verrez-vous pour qui je suis ? Voudrez-vous m'honorer pour qui je suis ?» Malgré toute cette gloire qui descendait, il est dit au verset 35 que cela a littéralement rempli le tabernacle et les a conduits jour et nuit. Malgré tout, quand est venu le temps de conquérir la terre, ils n'avaient aucune foi. Seuls 2 d'entre eux pensaient pouvoir le faire. Même Moïse lui-même, à cause de son péché, n'est jamais entré dans la terre promise. Dieu disait « Verrez-vous ma gloire ?» Les hommes ont refusé. Finalement, ils sont entrés dans le pays et Dieu a dit « Je veux révéler ma gloire, une fois de plus. » Il a dit « Je veux que vous construisiez un temple, et ma gloire y habitera. » Regardez en Roi 8, ils ont terminé le temple. Ils apportèrent l'arche de l'Alliance dans le temple, et après que tout fut fait, les tables de pierre y furent placées. En Roi 8, 10 dit « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuit remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Voici de nouveau le temple, permanent, juste au milieu d'eux. Cet incroyable et magnifique temple, salomonien. Là au milieu était la gloire de Dieu. Il disait, « Verrez-vous ma gloire ? Alors comme Moïse, reflèterez-vous ma gloire au monde, car Israël devait être son canal. » Il leur demanda cela ici. Ont-ils répondu ? Sont-ils devenus le canal pour atteindre le monde ? Le temple est-il resté un endroit où la gloire de Dieu résidait ? Non, non, ils ont refusé de voir la gloire. Ils lui ont tourné le dos, comme les hommes l'ont toujours fait. Regardez le chapitre 8 d'Ézéchiel. C'est un passage incroyable. C'est si typique de la façon dont ils ont profané le temple. Verset 4. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là. Il a vu une vision du lieu de culte, la maison de Dieu, et il y a vu la gloire, c'est là qu'elle devait être. Mais, il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Oh, oh, il y a une idole à l'entrée du temple. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. En d'autres termes, il est en plein désordre. Il ne s'en occupe même pas. Il a regardé dans le trou. Regarde, et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. J'entrai, et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille, tout autour. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Était-il responsable et sans excuse ? Vous feriez mieux de le croire. Pas plus que toute autre personne. Ils sont entrés avec les serpents. Ils sont entrés avec les bêtes abominables. Et ils ont adopté les idoles, parce qu'ils ont tourné le dos à la gloire du Seigneur. Il ne voulait pas voir Dieu pour qui il était. Puis vous avez au verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Ici, vous avez tout un tas de personnes jouant le rôle d'un prêtre, et c'était une profanation et un blasphème digne de mort. Puis au verset 13, et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à muse. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, qui est le lieu le plus sacré. Il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, verset 18, j'agirai avec fureur. Vous voyez, Dieu a patiemment révélé sa gloire dans le jardin, et l'homme lui tourne le dos. Il révèle sa gloire sur le visage de Moïse, et il tourne le dos. Il révèle sa gloire dans le tabernacle, et ils font la même chose. Sa gloire dans le temple, et il pollue le temple même dans lequel sa gloire habite. C'est comme cela avec l'homme. Au chapitre 10, vous avez l'événement le plus triste de l'histoire d'Israël. Ichabod signifie la gloire est partie. Vous pouvez parcourir le 10e chapitre par vous-même, et vous pouvez regarder la gloire de Dieu quitter le temple. Il part. Verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. C'est le premier endroit. La gloire sort du Saint des Saints, et elle se dirige vers la cour. Si vous la suivez, elle monte au-dessus du sommet, puis se déplace sur une montagne, et par la suite elle est partie. Les hommes ont toujours refusé la gloire de Dieu. Vous dites, Dieu l'a-t-il jamais renvoyé? Oui, encore une fois, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Qui est-ce? Le Christ. Et la parole a été faite chair. Écoutez attentivement maintenant. Et elle a habité parmi nous. Une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Quand Dieu a-t-il révélé sa gloire? Dans le Christ. Une fois Jésus est monté sur la montagne de la Transfiguration, et il a écarté son manteau, dit la Bible, et il a montré sa gloire, sous une lumière flamboyante. Il était la gloire de Dieu, la même gloire qui marchait et parlait dans le jardin, la même gloire qui brillait sur le visage de Moïse, la même gloire qui habitait dans le tabernacle, la même gloire qui quittait le temple, cette même réalité du Dieu vivant qui est venu dans un tabernacle humain, un temple humain, un visage humain, qui a marché et a parlé dans ce monde. La gloire de Dieu dit à nouveau à l'homme, « Voulez-vous me voir pour qui je suis ?» Il a fait preuve d'amour, et il a fait preuve de miséricorde, de bonté, de force, de puissance, de sagesse, de vérité, et de chaque attribut de Dieu. Que lui ont-ils fait? Ils l'ont assassiné, mais c'est ainsi avec l'homme, vous voyez? Donc, quand vous voulez suivre la piste et dire, est-ce que Dieu est juste s'il condamne les hommes? Posez-vous cette question. Est-ce que l'homme a voulu connaître Dieu à plusieurs reprises au cours de son histoire? A voulu voir sa gloire, ou lui a tourné le dos? Même Israël, avec la révélation la plus complète, a fait cela. Pourquoi attendre autre chose de la part du païen? Quand il s'agit de la condamnation, bien-aimé, quand il s'agit du jugement de Dieu, Dieu juge les hommes parce qu'ils rejettent sa gloire révélée. L'illustration classique est Pharaon. Combien de fois Dieu a-t-il manifesté sa gloire? Et combien de fois Pharaon l'a-t-il nié? Regardez avec moi un instant le chapitre 13 de Jérémie. Voici ce passage que j'ai lu plus tôt. L'un d'entre eux sur le jugement. Au verset 13, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem. Je les remplirai d'ivresse, je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Pourquoi? Mais comment peux-tu faire cela? Écoutez et prêtez l'oreille. Verset 15. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont refusé de faire. Avant qu'ils fassent venir des ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. En d'autres termes, vous rendez gloire à Dieu, ou vous êtes perdus. C'est tout le message. Vous rendez gloire à Dieu, ou gare à vous. Les hommes savent rendre gloire à Dieu, parce que Dieu leur a révélé cela. Vous dites, Dieu tire-t-il quelque joie de la punition? Non, verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil. Qu'est-ce qui refuse de rendre gloire à Dieu? C'est le péché de quoi? De la fierté. Mon œil pleurera amèrement et coulera de larmes. Non. Dieu n'est pas heureusement impliqué dans la colère. Il est tristement impliqué dans la colère. Regardez le chapitre 12 des Actes. Voyons un passage comparatif dans le Nouveau Testament. Actes 12, 20. C'est Hérode, et il décide qu'il va déclarer un jour, le jour d'Hérode, se booster un peu aux yeux de tout le monde. Il y a des tensions dans les pays voisins, et donc, il décide juste d'affirmer sa force. Il déclarera un jour d'Hérode, et se glorifiera par une grande fête. Ainsi, le verset 21 dit, « Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Il montre son importance. Le peuple s'écria, « Voix d'un dieu et non d'un homme. N'est-il pas merveilleux? C'est un dieu. » Hérode l'a beaucoup apprécié. Il était très honoré. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Ce n'était pas exactement la fin prévue pour le jour d'Hérode. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il frappé? Parce qu'il n'a pas donné quoi? La gloire à Dieu. Vous dites, savait-il faire cela? Bien sûr, il savait faire cela. Tous les hommes savent faire cela. C'est pourquoi il est sans excuse. Vous dites, et au futur, la gloire de Dieu reviendra-t-elle? Oh oui! Regardez Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Un mot me vient à l'esprit quand je lis ce verset. À quel mot pensez-vous? Cela commence par un T, ténèbres. Est-ce que vous avez entendu cela? Le soleil est sombre. La lune ne donne pas sa lumière. Si le soleil est sombre, la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tombent du ciel. Les cieux s'effondrent. L'obscurité totale. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre feront quoi? Se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance. C'est la première fois qu'il n'est jamais dit de cette manière. Et une grande gloire, vous voyez, toutes les lumières s'éteignent, et puis vient la révélation flamboyante de la Shekinah de la gloire de Dieu, et alors sa gloire remplira la terre dans la merveille de son royaume. Toute l'histoire des Écritures est l'histoire de Dieu révélant sa gloire. Vous dites, qu'en est-il du présent? Dieu révèle sa gloire dans le monde aujourd'hui. Le savez-vous? Vous voulez savoir comment? Les Colossiens disent, « Christ en vous, l'espérance de quoi? De sa gloire. À lui soit la gloire, Éphésiens, dans l'Église. Je crois que nous sommes le rayonnement de la gloire du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Et il ne nous écoute pas non plus. Vous voyez, l'homme refuse toujours la gloire de Dieu. Revenons à Romains 1. Vous avez maintenant un contexte pour ce verset. Quand il connaissait Dieu, et que tous les hommes le connaissaient à cause de sa révélation dans la création, et puisque Christ est la lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Voilà la promesse de l'Écriture. Mais quand ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, à cause de leur propre orgueil. Regardez ce qui se passe. Ils n'étaient pas non plus reconnaissants. En d'autres termes, ils n'attribuent pas du tout ce qu'ils possèdent au Dieu qui le leur a donné. L'échec de l'homme n'est pas qu'il ne parvient pas à reconnaître Dieu, mais qu'il refuse de glorifier Dieu. S'il n'accepte pas Dieu comme source, il ne remerciera pas Dieu. Et ne pas remercier Dieu est blasphématoire, car Dieu a fourni tout ce qui est, et il est si bon. Il fait même tomber la pluie sur les justes et les injustes. Au lieu de glorifier Dieu et d'avoir un cœur reconnaissant, observez ceci. Ils sont devenus vains, ou vides dans leur imagination. C'est une déclaration très intéressante. Le mot « imagination » signifie « penser », et ils sont devenus vides dans leur pensée. En d'autres termes, si vous rejetez Dieu, vous avez l'esprit vide. Vous avez créé une situation vide, de vaines philosophies humaines, des réflexions et raisonnements pervers et volontaires. Ils se sont retrouvés avec des pensées vides, des pensées inutiles et sans but. Ils vont de la vérité au vide. Mais ce vide ne reste pas vide très longtemps. Le verset 21 dit qu'il aspire l'obscurité. Cela est représentatif de tout le monde de la saleté, des ordures, du péché, de la méchanceté et du mal. Ainsi l'homme a une histoire qui dégénère plutôt qu'évoluer. Il connaît Dieu. Il refuse de glorifier Dieu. Il n'est pas reconnaissant. Il est trop fier. Quand il met Dieu hors de sa vie, il crée un vide, et ce vide est rempli de ses propres rêveries vides. Et dans ce vide vient l'obscurité du mal qui remplit son cœur insensé. L'homme ayant rejeté Dieu ne peut plus trouver la vérité. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, parce que cela ne résonne pas en toi. L'homme naturel ne comprend pas les choses de qui ? De Dieu. C'est de la folie pour lui, parce que son esprit rempli de pensées insensées, vides et mauvaises. C'est l'héritage du refus de l'homme de glorifier Dieu. Ce ne sont pas seulement des ténèbres intellectuelles, ce sont aussi des ténèbres morales. Vous le voyez tout le temps. Vous lisez toutes ces choses stupides que les philosophes écrivent. Vous écoutez les débats, vous lisez les articles des journaux, et vous entendez ces discours vides, stupides et décousus sur la philosophie humaine qui n'a aucune vérité. Mais c'est tout ce qu'il reste à l'homme qui rejette Dieu. Cela me rappelle un évolutionniste qui a écrit en première page un article que j'ai lu dans un magazine sur l'évolution. Il a dit « Je refuse de croire en un Dieu. Alors, quelle autre alternative ai-je que l'évolution ? Au moins il était honnête. Tout ce qu'il a, c'est un tas de sottises vides. Vous savez, parfois je suis tellement submergé par cela, alors que je regarde le monde vaquer à ses occupations, que je suis complètement consterné par la folie et le désespoir total. Ce qui le rend si incroyable, c'est que l'homme pense qu'il est si intelligent. » Verset 22. « Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. » Cela nous ramène au troisième mot, et c'est pour dimanche prochain. La rationalisation. Les hommes ont entendu et connu la vérité, c'est la révélation. Les hommes ont tourné le dos à la vérité, c'est le rejet. Les hommes affirment maintenant que leur folie est la vérité, c'est la rationalisation. La semaine prochaine, nous verrons également que les trois conduisent à la religion. Puis-je vous donner une petite note pour la semaine prochaine ? La religion n'est pas l'homme qui monte au niveau le plus élevé. La religion reflète l'homme dans la fosse, tout en bas. Nous verrons cela la prochaine fois. Tout cela mène aux convoitises, à l'homosexualité, etc. Nous verrons cela dans 2 semaines, lorsque nous commencerons le verset 24. Est-ce que cela vous donne une perspective sur la raison pour laquelle Dieu juge l'homme ? Parce que l'homme est sans excuse. Souhaitez-vous vous incliner avec moi ? Dans cette congrégation ce soir, je sais qu'il y en a ici qui se tiennent dans Romains 1. Vous avez connu Dieu, parce que ce qui peut être connu de Dieu vous a été révélé, et se trouve dans les choses qui ont été mises à notre disposition, le monde créé. Vous êtes responsable, et essayez de vivre à la hauteur de cette lumière. Comme Paul l'a dit dans Actes 17, Dieu n'est pas loin de vous si vous le cherchez. Il a essayé de vous révéler sa gloire. Il l'a révélée, et vous lui avez tourné le dos. Vous ne lui êtes pas reconnaissant parce que vous ne le reconnaissez pas comme la source de toute bonté. Et ainsi, vous n'avez jamais été conduit à la vraie lumière, Jésus-Christ. Vous vous tenez sans excuse devant le jugement de Dieu. Ce n'est pas le message que moi je vous adresse, c'est le message de Dieu. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez jamais embrassé le Fils, si vous n'avez jamais pris les dispositions de Dieu pour le salut, je prie pour que vous fassiez cela ce soir. Dites, Dieu, je ne t'ai pas glorifié de ma vie, je t'ai tourné le dos, j'ai vécu dans ma propre folie, et je suis en jugement. Mais je veux le pardon, je veux le salut, je veux la vie éternelle, je veux connaître Jésus-Christ. Juste là où vous êtes assis, vous pouvez le lui demander, et c'est tout ce que vous avez à lui dire. Sa puissance vous transformera en un instant, et fera de vous son enfant. Vous passerez de la mort à la vie, de la colère à la récompense, du jugement à la justification. J'espère que vous ferez cette prière. Père, je prie ce soir que pendant cette grande soirée que nous avons partagée, nos cœurs aient été bénis, que la communion ait été douce, que nous avons apprécié les rires et que nous ayons réfléchi profondément. Mais je prie pour que tout atteigne son apogée dans le cœur de ceux qui ont besoin de Jésus-Christ ce soir, afin qu'ils ne fassent pas face à cette heure inévitable du jugement. Ô mon Dieu, délivre-les. Puissent-ils voir ta gloire, comme tu as voulu que les hommes la voient depuis Éden. Puissent-ils faire tout ce qu'ils ont à faire pour la gloire de Dieu. Pendant que vos têtes sont inclinées, juste une note. Tout commence ici, comme Paul a dit. que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:11. Vous ne pouvez pas commencer à glorifier Dieu tant que vous n'avez pas confessé Jésus comme Seigneur, car il est la révélation la plus vraie et la plus pure de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Avez-vous fait cela? Certains d'entre vous qui sont chrétiens, qu'en est-il de la passion que vous n'avez pas pour les perdus? Demandez à Dieu de vous donner un zèle nouveau, de mettre sa gloire sur votre visage, comme il l'a mise sur le visage de Moïse, de faire de vous un instrument pour révéler sa nature à ceux qui vous entourent, afin qu'ils voient sa gloire. Père, merci pour cette belle soirée. Oh, quel temps béni nous avons eu! Envoie-nous sur notre chemin avec des cœurs remplis d'actions de grâce, et nous te louerons au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.